Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Nous allons aborder à présent un autre thème, comment garantir un environnement sain pour les enfants, un environnement assaini à l'école. On en parle avec Monsieur Hardy Bibombé, membre du programme national des santé scolaire et universitaire. Monsieur Bibombé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Le sujet vous intéresse, vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages. Appelez au 085 4 42 421 15 47, 085 421 11 47. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Esther Mamboté assure la diffusion sur les plateformes digitales de Radio Okapi ensemble avec Plamedi. Et nous avons Sylvain Baougueri à la mise en onde. Benjamin Moudoumbi assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Bien, nous abordons à présent notre deuxième thème du jour. Vous savez, la santé des élèves est un facteur déterminant de leur réussite scolaire. Un enfant en bonne santé apprend mieux, participe davantage aux activités scolaires et s'absente moins souvent. Pourtant, de nombreuses écoles sont confrontées à des problèmes d'assainissement. Les établissements souffrent souvent d'un manque d'infrastructures adéquates, des latrines mal entretenues, manque d'eau courante et d'une accumulation des déchets dans les cours de récréation, faute des poubelles suffisantes et des services d'évacuation réguliers. Un environnement scolaire insalubre expose les enfants aux maladies hydriques et environnementales, ce qui peut nuire à leur santé et à leur assiduité scolaire. Alors comment créer un environnement scolaire assaini? Quel rôle joue l'hygiène, la prévention, la vaccination et la surveillance sanitaire dans les établissements scolaires? On en discute aujourd'hui avec notre invité, M. Hardy Bibombé, membre du programme national des santé scolaire et universitaire. Alors, M. Hardy, je pense que le tableau que nous venons de peindre est tout à fait réel par rapport à la situation des écoles où il n'y a pas d'eau, les écoles ne sont pas assainies et qui exposent les enfants à plusieurs maladies.
Non, effectivement, c'est un constat qui est vraiment malheureux parce que nous voyons que la majeure partie des écoles, ici en ville-province de Kinshasa particulièrement, souffrent de tout ce que vous avez pu énumérer. Donc, des écoles insalubres du point de vue latrine. Et actuellement, dans le contexte que nous avons de maladies à virus Ebola, c'est un sérieux problème. D'emblée, vous trouvez facilement des cours qui ne sont pas assainis, accumulation de déchets. Et par là, ça doit un peu nous tiquer et nous dire qu'est-ce que nous devons faire, nous d'abord comme parents. Et puis c'est une affaire qui ne concerne pas seulement l'école, qui doit concerner et les parents, les communautés, ainsi que les enfants. Donc ce qui fait que nous devons réellement faire une promotion d'un milieu assaini, surtout en milieu scolaire, pour éviter que nos enfants puissent souffrir et être absents à l'école, comme vous l'avez dit.
Et pourquoi souvent les écoles, surtout les toilettes, hein, dans plusieurs écoles, les toilettes ne sont pas du tout bien entretenues?
Bon, évidemment, nous pensons que là, c'est de la responsabilité de tout le monde, parce que c'est là que commence d'abord par le technicien de surface. Est-ce qu'il est assez motivé pour faire ce travail-là? Est-ce que les responsables des écoles suivent de près tout ce qui se font là? Et quelle est l'hygiène que nous donnons aussi aux enfants pour bien entretenir ces latrines et écoles? Je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Et cela doit être vraiment enseigné et de façon assez cohérente pour que cela puisse être appliqué au niveau scolaire.
Mmh. Oui. Et puis vous verrez dans les écoles ou pendant la récréation ou même dans les salles de classe, vous trouvez des bouteilles, des sodas que les enfants ont jetés, les sachets, c'est trop sale. C'est comme si, on ne sait pas s'il existe réellement un service d'entretien dans la plupart de ces écoles-là.
Bon, service d'entretien, je pense qu'il y en a quand même. Hein. Mais le problème, c'est que nous disons, c'est qu'on doit quand même apprendre les enfants à une éducation sanitaire à la base. Est-ce qu'on en parle avec les parents à la maison? C'est aussi une question. Est-ce que l'enfant sait qu'après avoir utilisé une bouteille d'eau, par exemple, faudrait-il la mettre dans une poubelle? Ou bien faudrait-il attendre qu'un technicien de surface puisse récupérer ça pour lui? Donc, c'est comme je dis, tout le monde a une certaine responsabilité. Un milieu assaini n'est pas seulement... un milieu qui a pour responsabilité le technicien de surface. C'est tout le monde est responsable dans ce qui est assainissement de son milieu, pas forcément le technicien de surface.
Mmh. Et quelles sont les conséquences si les enfants évoluent dans un milieu qui n'est pas sain?
Effectivement, nous avons en premier lieu, vous avez cité, il y a les maladies d'origine hydrique. Donc, nous avons la diarrhée, nous avons le choléra, tout ce qui peut venir par l'eau. Et pire encore, quand l'eau stagne, par exemple, dans les écoles, ce sont des foyers qui peuvent servir de pullulation de moustiques. Donc, facilement, les moustiques pondent leurs œufs, ils éclosent. Et voilà, c'est un bon nombre de... C'est carrément un milieu propice pour amener plusieurs pathologies. Et généralement, les maladies orofécales, les maladies qui ont tendance à être... qu'on a facilement par la mise en main, quand on met les mains en bouche, un milieu souillé qui entre en bouche avec tout ce qu'il y a comme autour, ça peut carrément pulluler certaines infections et maladies.
L'enfant était aux toilettes, il n'y a pas d'eau, il ne sait pas laver les mains et puis voilà, il va manger les beignets.
Effectivement. Et tout ça, est-ce qu'au niveau des écoles, on surveille tout ça? C'est ça la grande problématique que nous avons actuellement.
Bien, alors au niveau de votre programme, vous êtes membre du programme national de santé scolaire et universitaire. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions, les activités que vous menez dans le cadre de l'assainissement des milieux scolaires?
Effectivement, dans le cadre du programme, on a mis en place un paquet minimum d'actions qui doivent être menées au niveau de certaines formations sanitaires, au niveau de certaines écoles. Alors, ce projet a commencé un bout de temps. Nous avons commencé l'année passée de manière assidue dans certaines écoles de Kinshasa, où nous avons eu à échanger avec les promoteurs d'école, les préfets, pour essayer d'épingler certains sujets auxquels, parmi ces sujets, nous avons eu aussi l'assainissement. Alors, notre rôle, c'est un peu apporter capaciter les enseignants ainsi que les responsables d'école et les élèves sur certaines mesures à prendre pour avoir un milieu assaini. C'est vrai que c'est pas facile, mais nous y allons mollo et nous espérons que d'ici peu nous pourrons atteindre les résultats escomptés comme on le veut, bien sûr.
Vous étiez déjà dans combien d'écoles par exemple?
Bon, il y en a quand même trop, hein, parce qu'on a fait passons le programme, on a subdivisé des équipes en fonction des provinces éducationnelles, parce que nous notre action est plus postée au niveau des écoles. Et par rapport à ces provinces éducationnelles, chaque groupe a eu à avoir certaines écoles. En tout cas, on a vu plus d'une centaine d'écoles pour lesquelles l'année passée, on a quand même fait certaines actions. Mais bon, malheureusement...
Les constats étaient toujours les mêmes.
Bon, les constats... Quasiment. Mmh. Mais notre rôle, c'est vrai que ce n'est pas faire seulement un constat, c'est apporter un plus pour que ces constats puissent être un peu... qu'on ne puisse plus avoir ce genre de choses au milieu scolaire.
Oui. Et qu'est-ce que vous avez apporté? Beaucoup plus la sensibilisation, l'éducation?
Effectivement, parce qu'à notre niveau, on ne peut faire que la sensibilisation, parce que le reste demandera assez de moyens, et ces moyens dépendra de toutes les parties prenantes. Hein. Nous avons les parents, les programmes comme nous, le gouvernement et tout cela. C'est un peu ça.
Mmh. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps, par exemple, à apporter des poubelles ou à acheter des poubelles pour ces écoles ou, voilà, vous n'avez pas assez de moyens.
Sincèrement, jusque-là, non. Mais seulement, on essaie un peu de motiver l'école qui puisse faire avec les moyens du bord afin que le minimum soit fait, en tout cas.
Mmh. Et quels sont les éléments qu'il faut réunir pour parler réellement d'une école assainie?
Pour parler d'une école assainie, d'abord, je pense que dans l'assainissement en soi, Il n'y a pas seulement l'aspect assainir comme tel, parce que je pense que l'assainissement, c'est une façon de faire en sorte que l'enfant, le milieu ou l'environnement soit sain, et que la personne soit en bonne santé et qu'il n'y ait pas contamination. Alors dans l'assainissement, on n'a pas seulement ce volet-là de dire qu'il faut mettre de côté les déchets. Nous pensons que pour un environnement sain, par exemple au niveau scolaire, nous devons aussi faire des détections précoces des maladies. Dans le cas par contre, vous avez un enfant qui vient le matin avec une fièvre, avec une joue enflée, on s'est dit que ça peut être... Au cas par cas, ça peut être peut-être un début d'oréant. Donc c'est une manière pour nous d'éviter assez que les enfants, ces mêmes collègues, puissent développer la même pathologie. Donc
il y a des maladies qui se transmettent à l'école. Tel enfant est venu avec une pathologie et puis a communiqué aux autres.
Effectivement, moi j'en suis victime d'ailleurs parce que ma fille cadette,
oui.
Heureusement que l'école, là on félicite l'école. L'école a appelé pour dire que votre fille était faible, elle faisait de la fièvre. Quand elle revient à la maison et le soir, on voit qu'elle a la joue enflée et on se rend compte que c'était l'oréant.
Donc c'est qu'on appelle à Lingala Makero, c'est
Makero, ça? Makero, effectivement. Effectivement. Je pense qu'il y a un mois, cette pathologie est en train de courir au milieu des enfants. Et c'est ça, en tout cas, le rôle que joue le programme au niveau scolaire.
Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants qui ont attrapé les oréants, non?
Bon, moi, personnellement, c'est un peu bizarre parce que ma fille étudie avec mon neveu.
Oui.
Donc, ce qui fait que ça a commencé par mon neveu et puis ça a attrapé ma fille après, dans la même classe en maternelle.
Okay.
Donc, nous supposons que certainement ça aurait circulé au niveau de l'école.
Oui.
Et tout ça, je pense que c'est intégré dans le cadre de l'assainissement et apporter un environnement sain au niveau scolaire.
Est-ce qu'au niveau des écoles, il y a un système de dépistage précoce, par exemple? Est-ce qu'il y a des dispensaires, tous ces dispositifs de santé, par exemple, pour gérer ce genre de situation?
Donc, effectivement, il y a certaines écoles où les dispensaires sont déjà bien installés. Nous avons le cas de Boboto, Elika, Kabomba. Et déjà, avec le paquet minimum des activités complètes qu'on essaie de mettre en place, il est question de sensibiliser certains parents. Dans le cas où peut-être vous voyez qu'il y a un symptôme qui est récurrent dans une classe, on peut mettre sur une fiche pour dire que non, cette période, nous avons peut-être 3, 4, 5 enfants qui ont manifesté le même symptôme et ils ont été absents à l'école pour les mêmes symptômes. Et c'est là, ça tique quand même, et c'est ce qui fait que le dispensaire peut référer ces cas dans le district sanitaire, en fait la zone de santé qui est la plus proche, et c'est une manière de faire une surveillance au niveau scolaire de maladie.
Mais le bon nombre d'écoles n'ont pas, y a pas de dispensaire. Bien qu'il y a parmi les frais, on demande aux enfants de contribuer aussi pour les soins de santé.
Ben, ça, je ne saurais les dire. Mais il faut noter qu'effectivement, il y a un problème des sanitaires, des formations sanitaires au milieu scolaire. Quelques écoles en a, mais où ils en disposent quand même, il y a quand même des actions qui sont posées.
Et par rapport à la vaccination, est-ce que au niveau des écoles aussi, c'est quelque chose qui doit se faire aussi là-bas?
Bon, effectivement, pas assez fort faire vraiment au niveau de l'école, mais la chose qu'on devrait faire, nous, c'est sensibiliser l'école pour essayer de montrer l'importance de la vaccination dans la santé de l'enfant. Parce qu'il faudrait dire qu'actuellement, il n'y a pas meilleur moyen de prévention contre les maladies à potentiel épidémique que la vaccination. Donc cela nous permet de sensibiliser les parents afin qu'on ait une adhésion assez facile à la vaccination vu les différentes rumeurs qui courent sur la vaccination.
Bien, nous parlons de comment garantir un environnement scolaire sain pour nos enfants. Vous avez des questions, préoccupations, des propositions. Eh bien, n'hésitez pas, composez déjà le 085-421-1147. 085-421-1147. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Bien, on va accueillir directement les auditeurs. Nous avons Maître Omar Kigalo depuis la ville de Kinshasa. Maître, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi, invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jodi. Le premier temps de mon intervention est celui légal. C'est pour rappeler à tous les Congolais, surtout promoteurs d'école, que l'article 53 de notre loi fondamentale dispose que tout Congolais, enfant ou adulte, a droit à un environnement sain. C'est un droit et ce n'est pas une faveur qu'on accorde aux enfants. Au-delà de ça, il y a toute une loi qui a été votée en 2009, la loi du 10 janvier 2009 pour la protection de l'enfant. Il y a aussi en 2011 une loi qui a été votée sur la protection de l'environnement, Donc nous avons déjà un cadre juridique qui impose aux écoles de garantir aux enfants un environnement sain. C'est une obligation et non une faculté. Le deuxième temps de mon intervention, c'est par rapport à une question noble que vous avez posée. Avant d'accorder un arrêté à une école publique ou privée, il y a des conditions qui sont fixées. Je ne citerai pas les toutes, je me limiterai à celles par rapport à l'émission. Il y a la loi du 11 février 2014 sur l'enseignement, à son article 50, prévoit qu'avant d'accorder une autorisation à une école, on doit avoir au sein de cette école des infrastructures appropriées et propres. Il y a des épithètes appropriées et propres. On vérifie si les toilettes sont propres, si les salles de classe sont propres, si la cour est propre, s'il y a des poubelles, s'il y a une politique d'évacuation des déchets, s'il y a aussi une clinique ou un dispensaire. Ce n'est qu'à ces conditions qu'on peut accorder un arrêté à une école. Donc, un travail en amont. Deuxième condition par rapport à l'environnement. Il faut que vous démontrez, vous, école qui voulez œuvrer comme école, que vous avez obtenu l'attestation de l'étude environnementale. Parce que, au-delà de ce que je dis par rapport aux infrastructures, la loi veut que l'équipe du ministère de l'Environnement arrive, vérifie si les conditions environnementales sont réunies. On vous remet une attestation. Ces deux documents sont très importants. Donc, il y a des conditions fixées par cela. Alors, est-ce que cela est fait? Quelle a d'ailleurs été la question ou le souci de l'invité? Dans la plupart des cas, non. Voilà pourquoi moi, je propose, parce que la santé n'a pas de prix. Première chose, il faut que l'inspection des écoles fasse leur travail. Il faut que l'inspection travaille sérieusement, en amont, avant d'accorder un arrêté à une école pour qu'elle puisse fonctionner. Il faut vérifier s'il y a la propreté dans tout ce que j'ai cité et si elles ont obtenu l'attestation de l'environnement. Deuxième solution, il faut qu'il y ait aussi inspection en aval. Après avoir vérifié avant l'ouverture, mais il faut faire des tours, parce qu'on peut ouvrir une école et fonctionner de manière propre. Après 2 ou 3 ans, l'école devient sale. Il faut vérifier ce que la propriété est entretenue. Troisième solution, il faut fermer les écoles non conformes.
Maître Omar, on a, en parlant de l'étude environnementale, il y a aujourd'hui des écoles qui sont entourées des églises et des bars pendant que les enfants étudient. Il y a de la musique à côté, etc.
Exactement, monsieur Jeudi. Voilà pourquoi je dis la loi du 11 février 2014 sur l'enseignement exige avant d'ouvrir que l'étude à impact environnemental soit faite. Allez en Gaba, allez à Makala, je ne m'énise pas les communes, mais je n'ai pas dit constat que je fais. Il y a une école, il y a un bar, il y a un hôpital. Les conditions ne sont pas respectées ni sur le plan urbanistique, ni sur le plan environnemental. Mais on ouvre. Voilà pourquoi l'inspection doit être démise, doit être effective. Les inspecteurs des écoles ne sont pas là seulement pour contrôler si l'enseignement est bien donné. Ils ont également le rôle de vérifier si l'école fonctionne selon les normes établies. Les normes, elles n'en manquent pas. On vient d'avoir une émission avant celle-ci où on parlait de la circulation. Oui. La loi a toujours résisté, mais les acteurs, aller en Gaba, aller à Makala, aller à Boumou, partout, mais c'est inhumain. Autre chose, il faut aussi, monsieur Jeudi, une éducation environnementale. Parce que l'environnement, nous l'avons toujours dit, c'est à la fois un cadre de vie, une source de revenus et un spectacle des déchets. S'il est malsain, la vie même n'est plus possible. Au-delà des écoles qui doivent garantir des mesures environnementales et des propriétés, les élèves qui sont acteurs, on a mis des poubelles, est-ce qu'ils savent utiliser? Combien d'élèves savent qu'un papier mouchoir, s'il est dans le sol, planqué pendant longtemps, pollue le sol? Ils ne savent pas. Combien d'élèves savent que lorsqu'on jette un sachet dans les latrines, ça peut polluer les latrines et entraîner des maladies? Ils ne savent pas. Il faut qu'on inclue qu'au niveau des écoles l'éducation à l'environnement, car beaucoup de Congolais sont illettrés. Mais le plus important, M. Jody, c'est l'inspection qui doit être faite. On descend sur terrain, une école qui ne respecte pas les ordres et les conditions environnementales, on la ferme. La santé n'a pas de prix, surtout celle des enfants.
Merci, Maître Omar Kigalo. Blaise Saïdi Atoubou, vous êtes à Kisangani, Boyoma, Singamwambe. Bonjour, Blaise.
Bonjour, cher Jody. Une fois de plus, c'est bon retour, hein.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dire par rapport à l'assainissement des milieux scolaires?
Oui, d'abord, je partage l'idée de Maître Omar. Je salue vraiment la pertinence de son intervention, puisque je dois commencer aussi à compléter quelques éléments là-bas et de poser quelques questions, puisque ce que Maître Omar a dit, c'est tout à fait correct. Donc, ici, chez nous, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Cher Jody, vous verrez que non, aujourd'hui, non seulement à Kisangani, partout en République démocratique du Congo, les normes d'une école, donc il n'y a plus les normes d'une école. Moi, je pense bien que non, à l'avènement de la Troisième République, à l'avènement des élections dans notre pays, vraiment, les écoles ne fonctionnent plus comme les écoles fonctionnaient à la Deuxième République. Puis d'abord, il y a...
Allô?
On ne peut pas 500 mètres dans d'autres avenues. Allô, allô?
Oui,
allô?
Allez-y, oui, on vous écoute.
Allô? Oui. Vous ne trouverez même pas 500 mètres sans une école. Donc, le problème des écoles, c'est comme dans le problème des églises. Donc, on ne manque pas les...
Allô? Voilà, un souci hein, par rapport à la liaison.
S'il y a rigueur à cette situation...
Oui.
Oui, allô?
Ok, vous disiez que si...
Ok,
si
comme ça, rigueur... je dois partir plus...
Oui, allez-y directement à la question.
Voilà, je disais... Oui, je pose la première question. Quelles mesures urgentes les autorités devraient-elles prendre pour garantir des conditions d'hygiène satisfaisantes dans toutes les écoles? Voilà, c'est ça la première question. La deuxième question, quelle manière les parents peuvent-ils contribuer davantage à l'amélioration de l'environnement sanitaire des écoles? Et pour citer, quelles solutions durables permettraient d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable dans les établissements scolaires? Je me limite à ces trois questions.
Bien, merci Blaise Saïdi. Ismaël Mumpoy depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tout le monde.
On vous écoute Ismaël.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je pense que ce que Blaise Saïd vient de dire est une chose, moi j'ajouterai aussi une autre. Voyez aujourd'hui, les élèves ne vivent pas dans des milieux sains. De peur que vous trouvez une école qui est construite sur une parcelle de 25 sur 30, tout comme ici à Lubumbashi. Donc, il n'y a même pas une mobilité octroyée aux élèves. Que dire aussi de la gestion du déchet? Vous trouverez une salle de classe qui est à 3 mètres sur 6. Mais vous trouverez aussi sur une même classe 50, 40 élèves, voire même 70 ou 80. Cela ne permet pas à ce que les élèves puissent respirer normalement. Soit les fenêtres ne sont pas bien installées ou il n'y a pas la lumière dans la salle de classe.
Oui.
Maintenant, que dire de ce qui est comme la gestion du déchet? Vous trouverez, il n'y a même pas un petit stade où les élèves peuvent se récréer normalement. Cela montre réellement que l'État a laissé ou légué la gestion des écoles seulement pour les privés. Si vous allez du côté des écoles publiques, vous trouverez quand même que du temps on avait construit des écoles ou des salles de classe spacieuses qui permettent parfois une mobilité. L'espace est réservé aussi pour les jeux d'enfants, parce que l'enfant est un acteur qui se développe à travers les jeux. Mais ce que nous remarquons ici à Lubumbashi, ce qui prend l'ampleur, ce sont des écoles privées, ils ont leur mode de gestion. Et par contre, il avait fallu à ce qu'il y ait quand même une réglementation avant de créer une école. Tenez qu'aujourd'hui, celui qui a déjà créé son école, c'est les inspecteurs qui viendront où il doit aller voir les gouvernements, les membres du système éducatif, après avoir construit ses écoles ou son école, où l'école est en fonction et on étudie, c'est par là qu'on les paye avant même de faire une visite.
Oui.
Voyez par dans l'exemple des commerçants, ils font ça. Avant d'ouvrir une activité, on vient faire une enquête commode et incommode. Si on trouve que ça ne répond pas aux normes, on dit non, telles activités, tu ne peux pas le faire ici. Ce qui est le contraire avec les écoles. Gérer une gestion telle qu'à Kinshasa, des déchets, les consorts, bon, nous voyons que c'est très difficile. Il a fallu à ce que l'inspection doit passer d'abord, inspecter, voir réellement si les conditions doivent être réunies pour que cette école-là doit fonctionner. Si cela ne se fait pas, c'est ce que nous voyons, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'argent, en mettant la vie des enfants en danger. Il y avait une école où étudiaient mes enfants. Une fois quand nous étions appelés, Vous voyez, les fosses septiques étaient déjà pleines.
Oh là là.
Et que les parents, quand les parents se plaignaient, ils disaient non, la fois prochaine, nous allons améliorer. Imaginez au milieu de l'année que ces enfants vivaient avec cette situation-là. Sinon, la question que j'adresse à l'invité, c'est de savoir quelles sont les conditions nécessaires et prévues par la loi scolaire avant d'ouvrir une école.
D'accord.
La merci. Deuxième, essaie de savoir.
Oui. La deuxième.
Oui.
Allez-y.
Je n'ai pas. Oui, la deuxième, essaie de savoir quelles sont les sanctions prévues si une école ne répond pas aux normes prévues par la loi. Merci beaucoup.
Bien, merci pour toutes ces préoccupations, Monsieur Bibombé. À vous la parole.
Bon, en tout cas, merci pour, aux auditeurs pour les quelques préoccupations. Je pense que, pour déjà répondre à la dernière, au dernier auditeur, je pense que Maître Omar a essayé de briefer un peu sur toutes les lois qui montrent disposition et fonctionnement hein, des instituts, des écoles et consorts. Bon, il faut dire que nous, en tant que programme national de santé scolaire et universitaire, nous agissons plus au niveau sanitaire. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui sont dans l'inspection pour essayer de faire des approbations pour ouverture et fonctionnalité des écoles. Mais du moins, notre rôle, c'est la sensibilisation pour que nos enfants et élèves puissent étudier dans un environnement sain et que nous puissions être des détecteurs précoces des maladies dans le cas où il y en a. Donc, ce qui veut dire que je pense que les intervenants ont essayé un peu de peindre les tristes réalités de la RDC. C'est que moi, à mon avis, si je dois répondre à certaines questions, je pense que il faudrait que les communes puissent exister comme il le faut, parce que ailleurs, tout commence par la commune. Donc les écoles sont directement liées à la commune. C'est la commune qui a un peu ce droit d'inspecteur et des garants qui sait savoir comment est-ce que une école doit être ouverte, qui essaie de faire le contrôle, qui est inspecteur sanitaire et voir comment les choses se passent. Mais malheureusement, comme nous constatons chez nous en RDC, il y a certaines structures qui sont existantes, mais qui malheureusement ne fonctionnent pas. Pour dire que nous limitons juste à la promotion vraiment sanitaire en milieu scolaire. C'est vrai que quand on parle d'approvisionnement, l'approvisionnement, malheureusement, ce sont des réalités que nous avons. Mais quand on parle d'approvisionnement en eau potable, nous avons d'une part la partie qui est la régie des eaux, qui doit fournir de l'eau. Mm-hmm. Donc, nous sommes au ministère de la Santé. La régie des eaux, c'est le ministère
Normalement, une école ne devait pas manquer d'eau.
Exactement.
L'eau courante, ça peut pas manquer.
Effectivement. Donc,
de l'eau courante.
Ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois, ce sont les rapports, vous faites les mêmes rapports, mais on fait ce suivi là, mais nous espérons que c'est vraiment des réalités qui doivent être mises en commun et les solutions doivent être prises en commun pour qu'on ait vraiment des résultats assez escomptés.
Vous avez suivi M. Mompoy de Lumbashi qui parle d'une école construite sur 25 sur 30. Vous avez une salle de classe de 3 mètres sur 6 avec 80 élèves.
Exact.
Mal aérée. Il n'y a pas assez de lumière.
Et surtout mal éclairé.
Mal éclairé.
Donc, c'est ce qu'on dit. Ce sont des réalités que nous subissons de ces réalités-là. Je pense qu'on a eu à faire une détection des troubles de l'appréhension. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui échouaient à l'école seulement parce qu'ils ne voyaient pas bien. Et c'est au cours d'une campagne que le programme a fait à l'école qu'on a eu à voir que beaucoup d'élèves étaient malvoyants. Et ça, c'était dû aux conditions classes,
oui, et la salle mal éclairée.
Effectivement. Donc, c'est là qu'on dit que les solutions sont multi. En fait, ça doit partir de plusieurs entités. Mm. Donc, il y a l'entité qui régit le fonctionnement des écoles, qui est le ministère de l'enseignement. Nous avons, nous, la santé qui agissons presque partout. Et puis voilà, donc je pense que c'est un effort qui doit être fourni par tout le monde et que chaque entité doit prendre ses responsabilités en main et non pas seulement ouvrir une école pour ouvrir. Donc on a des écoles qui sont même sur... Vous avez une école maternelle qui est pratiquement sur du 15 sur 20 et on met un étage. Et comme vous le dites, un enfant qui va à l'école qui n'a pas de temps de faire du sport... Or que tout ça,
il n'a même pas l'espace pour jouer.
Exactement, exactement.
Pas assez d'espace pour jouer.
Donc, malheureusement, ce sont des tristes réalités. Et nous espérons que dans un temps assez court, que nous pourrons essayer de résoudre tous ces problèmes-là au milieu scolaire.
Donc votre structure, votre programme, c'est d'entrer en contact avec les responsables des écoles, tant publiques et privées, et les sensibiliser par rapport à ces réalités.
Effectivement. Comme on le dit, hein, c'est plus facile dans le milieu public, parce que nous sommes du milieu public.
Oui, mais chez les privés,
chez
c'est
les
pas
privés,
facile.
Vous imaginez que dans une école privée, dire seulement qu'on fasse une campagne de dépistage, nombre de questions qu'on vous poserait. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourtant, nous sommes un service étatique.
Donc c'est pour ça que les promoteurs vous compliquent la situation.
Effectivement, et vous verrez ça même pendant les campagnes de vaccination. On vous dira que facilement on a vacciné les enfants dans les écoles publiques, mais dans les écoles privées, il faut l'approbation de parents, il faudrait l'approbation de beaucoup
de promoteurs,
effectivement,
tout ça, effectivement. Etc. Donc on retient que beaucoup d'enfants n'étudient pas dans un environnement assaini.
Ça en tout cas on peut le confirmer, effectivement.
Et votre programme n'a pas le pouvoir de sanctionner?
Sanctionner c'est trop dire, parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons rapport à notre hiérarchie. Comme nous dépendons du ministère de la Santé, c'est que nous avons des activités que nous faisons, et pendant qu'il y a des revues annuelles et tout ça, nous présentons les activités faites au niveau du programme. Et nous proposons des actions. Les actions à mener. Donc, compte rendu des retours des autorités, et les actions sont prises et sont faites. Mais il faut savoir, pour poser ces actions, il faut le faire en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur. L'enseignement, on peut dire.
Et par rapport à la maître Omar a parlé, avant qu'une école puisse ouvrir, il faut une attestation d'études environnementales. Est-ce que généralement ça s'est fait?
Donc c'est vraiment la bonne question. C'est pour ça que moi je me dis que si au départ toutes les structures étatiques fonctionnaient, tout allait aller pour le meilleur. Parce que je vois mal que le niveau central puisse peut-être aller directement voir une école qui est au niveau de N'Djili. Supposons que la commune de N'Djili avait tout son pouvoir, et que les écoles étaient gérées au niveau communal, et tout était géré au niveau communal, pratiquement on pourrait avoir de plus amples, de bons résultats que ceux que nous avons maintenant.
Surtout avec les privés, ils font ce qu'ils veulent.
Effectivement, les privés, bon, pas vraiment ce qu'ils veulent, hein, mais on s'est dit, on se dit qui est qui, au fait, c'est ça le grand problème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais après, ils ne sont pratiquement pas réceptifs, certains privés. Il faut dire certains privés, mais pas tous.
Bien, on a parlé d'une école qui est à côté d'une église, à côté d'un bar. Pendant que les enfants étudient, on entend la musique ou la prière, tout ça. Est-ce que cet environnement-là convient pour une école?
En tout cas, ça, il faut le dire, cet environnement ne convient pas. Donc ça, c'est un constat qui est pratiquement amer, surtout pour Kinshasa. Kinshasa, pratiquement toutes les écoles, vous avez à côté des débits de boissons, vous avez des hôtels, vous avez des bars, et tout ça, fait, ça ne contribue pas au fait de manière positive au développement ou bien à l'instruction de l'enfant aussi d'une certaine manière. Et là, je pense que les autorités devraient en tout cas prendre les sanctions requises dans la matière.
Bien, nous parlons de l'assainissement des milieux scolaires, des questions et préoccupations composées le 085-421-15-45. Alors, quelles sont parmi les solutions, les actions à envisager pour assainir les milieux scolaires?
Je pense que les actions, on y a d'abord l'assainissement en soi. C'est que pour l'assainissement en soi, comme la plupart des auditeurs ont dit, c'est vraiment assainir les milieux dans le sens que il faut éviter plus des collections de déchets, éviter des eaux qui stagnent, avoir il faut que les enfants puissent avoir cette facilité d'avoir de l'eau potable et peut-être laver les mains à tout moment. Ça, c'est du côté vraiment gestion des déchets. Et si on parle de la santé de l'enfant, comme on dit, les détections précoces des maladies, donc ça dit que les parents doivent essayer aussi de travailler sur ce cas-là, parce que nous disons qu'un enfant, par exemple, qui ne part pas à l'école, qui a de la fièvre, qui avait eu de la fièvre, qui ne fait pas suite à l'école, en disant peut-être mon enfant n'est pas allé aujourd'hui à l'école suite à tel. Il se peut que cette fièvre soit une corollaire d'une pathologie antérieure. Mais je pense que ces genres d'informations doivent aussi être partagées avec l'école, pour essayer de voir si peut-être le même s'il n'a pas été manifesté chez tous les enfants. Et de même, par exemple, un enfant qui n'a pas pratiquement tous ses vaccins et qui doit aller étudier avec les autres enfants à l'école, c'est aussi un problème. Donc tout ça, c'est un peu tous ces éléments qui feront en sorte que le milieu soit vraiment assaini pour les enfants à l'école. Et surtout, le plus grand problème, c'est la gestion des nuisances sonores, de déchets environnementaux autour de l'école et tout.
Donc, surtout, les écoles sont souvent envahies par des vendeurs.
Des marchés
qui se forment tout autour des écoles.
Donc, moi, une des émissions à la télé où il y avait carrément un marché autour d'une école et un maléwa. Donc, pendant que l'enfant étudie, et à côté, il est en train de voir un maléwa. Donc, ça dit, je ne sais pas si cet enfant...
Il sera concentré, ça va les distraire.
Donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a la part, que tout le monde doit faire sa part de choses. Donc, la santé fait sa part, bien que avec les moyens du bord. Et nous pensons que les restes, que ce soit à l'intérieur ou la sécurité, doit aussi faire sa part pour garantir à ce que les enfants puissent étudier dans un milieu assez sain.
D'accord. Donc, on peut dire que pour que les enfants soient en bonne santé à l'école, est-ce qu'il faut qu'il y ait un service, un dispensaire ou des médecins ou des infirmiers en permanence à l'école pour s'occuper de la santé des enfants?
Effectivement. Prenons le cas, par exemple, au-delà des maladies, vous avez un tournoi sportif dans une école et un enfant est blessé. Donc, facilement, s'il y a un dispensaire scolaire, s'il y a des dispensaires...
Ou pendant la récréation, ils sont en train de jouer et puis l'un tombe et se blesse.
Effectivement. Donc, pour nous, au niveau du programme national de santé scolaire universitaire, notre souci serait que toute école puisse disposer d'un dispensaire scolaire, au moins. Et un service qui pourrait gérer les urgences en milieu scolaire, urgences sanitaires en milieu scolaire.
Voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup les terrains de plusieurs écoles publiques, surtout, qui sont spoliés. Une bonne partie des vents est transformée en magasin. On y vend un peu de tout et l'école est cachée derrière. Et tout ça, c'est toujours... est-ce que ça fait partie de l'assainissement?
Bon, ça c'est vraiment drôle. Au fait,
parce qu'il semble que les magasins, ça vient embellir.
Au fait, on pense à l'embellissement, mais oui. On oublie qu'il faudrait apprendre à l'enfant à faire du sport dès le bas âge. Parce que le sport sauve et les sports nous évitent à certaines maladies chroniques.
Oui.
Malheureusement, tous les espaces de jeu sont maintenant des espaces commerciaux qu'on donne à
tout. Même des salles de fête qui sont érigées dans la cour de l'école.
Voilà, exactement. Malheureusement, c'est un constat qui est vraiment amer. C'est pour ça que nous disons encore que nous devons vraiment faire de la promotion d'un environnement sain pour nos enfants au niveau de l'école.
085 421 15 47, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour intervenir dans cette émission de la vie au quotidien. On va accueillir Mbouy Joseph depuis Likassi. Monsieur Mbouy, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, merci bien d'avoir m'accordé la parole. Donc nous parlons des choses des écoles ici chez nous à Likassi. C'est très catastrophique, mes amis. À ma côté, chez toutes les écoles, deux établissements d'écoles qui prennent aussi plus de 1000 enfants. Si vous y arrivez là-dedans, il n'y a pas de toilettes. Il y a de la prime qui a été confiée à l'ancienne époque, mais sans bien entretenir. Vous allez vous rendre compte que les enfants là-bas propres se retournent trop sales. Rendez-vous compte que mal de sanctions de ces dirigeants qui ne dirigent pas les écoles, qui n'acceptent pas l'entretien de ces écoles-là. On nous fait payer de l'argent pour avoir de l'assainissement, mais cet argent n'arrive pas, ne tombe pas au prénommé, mais ils se consomment là comme leur kiosque comme ça. J'ai trouvé cette idée, la prime qui existe là-bas, mais c'est joli, vous n'avez pas, vous voulez ne pas encore le voir. Vous ne voulez pas encore le voir, monsieur Jury. Maintenant, il n'existe pas une loi pour sanctionner ces dirigeants-là qui ne travaillent pas aussi bien. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'accepter que les inspecteurs pour aller insulter le milieu scolaire? Parmi cette école, il y a une école qui a été suivie par le projet de 141 territoires. C'est bien que des bâtiments non achevés. Maintenant, si vous y arrivez là-bas, pas de latrine, papa. Plus de 1200 élèves. Chaque classe compte 200 et quelques lettres. Mais si vous y arrivez, pas de la prime, pas de prix d'eau. Si Ebola arrive ici et d'aller en Katanga,
monsieur Mbouy,
nous allons manquer à compter des morts.
Monsieur Mbouy, oui? Est-ce une école publique ou une école privée?
c'est biblique, mécanisé par l'État, malgré que l'école est conventionnée, mécanisé par l'État, c'est le public là. Mais je manque à le citer parce que j'ai tout près des dirigeants qui sont tout près de moi, à ma face.
Maintenant, pour arriver, voilà, il faut vaut mieux ne pas citer pour ne pas avoir de problème.
Oui, c'est bien ça, mais il faut l'État qui se résiste pour à bien visiter de ces choses. Nous prenons beaucoup de malades pour nos enfants. Hein? De fièvre typhoïde, de malaria, un peu aiguë. C'est pour cette école qui est trop sale, c'est trop sale, mes amis. Hein? Si le, pendant les saisons pluvieuses, pendant la pluie, nos outils de travail de l'école de nos enfants viennent trop démodés avec la pluie. Les écoles en fait ne sont trop que jamais. Cette école est mal entretenue, papa. Mais ce dirigeant qui se permet de là-bas, mais si c'est 50, 40, 40 ans, jusque là, il n'a pas ce qu'on appelle pensionné. Mais ils sont là. Ils font des gris-gris pour ne pas qu'ils ne soient pas fortifiés sur l'école. Mais l'entretien est trop mal, monsieur Joseph.
Merci beaucoup, monsieur Mboui Joseph, depuis Likassi. Une école avec 1000 élèves. Mais pas des toilettes propres, pas assez de toilettes, et les quelques toilettes qui sont là sont ne sont pas propres. Ça, c'est exposer les enfants à des maladies, monsieur Hardy.
Non, effectivement, moi je pense que pour les quelques notions que j'ai de santé publique, je pense qu'il y a certains modèles de développement qui impliquent la communauté. L'individu, la communauté, le pouvoir, ainsi que la communauté, le pouvoir qui est institutionnel. Bon, moi, je me pose une question. Les parents qui envoient, par exemple, les écoles, les enfants à l'école, parce que nous sommes tous parents, il y a toujours des comités des parents et tout. Il y a certaines choses qui concernent la santé ou bien l'assainissement qui est discuté aux réunions de parents.
Oui.
Moi, je pense qu'à un moment, il faudrait que tout le monde puisse faire sa part de choses. Moi, je me vois mal aller envoyer un enfant dans une école où il n'y a pas de sanitaire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des
solutions. Où il y a des sanitaires, mais qui sont sales, mal entretenus.
Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a des solutions qui ne sont pas juste attribuables à l'école. Parce qu'il y a aussi des solutions d'alerte. Vous alertez. Mais quand on a, par exemple, les parents qui acceptent envoyer les enfants à l'école dans ces conditions, c'est quand même aussi alarmant. Certes, c'est vrai que nous devons le dire que ça ne va pas. Mais il ne faudrait pas qu'on se limite à dire que ça ne va pas. Moi, par exemple, je sais que j'exigerais à l'école de mon enfant, qui a peut-être une faible lumière en salle, de dire que non, cette école doit avoir la lumière parce que peut-être que je paye de l'argent pour ceux qui sont dans les écoles privées. C'est pour ça que je dis qu'on doit sanctionner, mais je pense que nous aussi, parents, nous avons au moins cette force-là, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'école qui évolue sans comité de parents.
Il y a toujours des comités de parents.
Donc, moi, je verrais mal, surtout côté sanitaire, qu'une école qui n'a pas des latrines, que les comités de parents aient aussi accepté facilement d'envoyer les enfants et envoyer les enfants.
Bien, comme vous avez suivi, la question que je me pose, une école par exemple avec 1000 élèves doit avoir combien de toilettes pour les garçons, combien pour les filles, combien pour les enseignants, parce qu'il ne faut pas mêler le monde.
Effectivement, là je ne peux pas vous donner les chiffres comme tels, mais je pense qu'il faudrait, sur ce point-là, il faudrait carrément des mesures vraiment adéquates. Je ne pense pas qu'une seule latrine par exemple pourrait couvrir 1000 enfants. Moi, je prends le cas de l'école que j'ai fréquentée quand j'étais en bleu-blanc. Je pense que c'était un collège. On avait plus de 20 boxes de toilettes. Et je pense que c'était le minimum. Malgré ce minimum-là...
Plus de 20. Pour les garçons,
c'était un collège dans le sens congolais, au fait.
Congolais, voilà.
C'est-à-dire garçons. Il y avait au moins plus de 20 boxes. Ben, c'est vrai qu'il y avait ces boxes-là. Il y a aussi la question aussi de l'hygiène à l'utilisation de ces latrines-là aussi.
Est-ce qu'il y avait des papiers hygiéniques, il y avait de l'eau en permanence.
De l'eau quand même, mais papier hygiénique, c'était la grande question en fait.
Oui.
Donc c'est un peu tout ça.
Le personnel pour l'entretien,
il y en a, mais peut-être pas assez. Généralement pas assez, parce que pour certains...
Et peu motivés, qui ne sont pas très motivés.
Je ne dirais pas peu motivés. Je ne dirais pas peu motivés, mais je pense que le personnel n'était pas assez. Et c'est pas aussi les moyens de contrainte que ces personnels a pour faire réellement leur travail.
Bon, apparemment, les écoles ne mettent pas trop d'accent sur l'assainissement, parce que l'assainissement, ça a un coût et ça demande des produits. Il faut des produits en permanence, tout ça, pour nettoyer les latrines, par exemple.
Effectivement. Moi, je pense que l'assainissement, même en dehors des droits du milieu scolaire, l'assainissement, c'est vraiment un sérieux fléau, surtout au Congo. Et je pense que les autorités devraient quand même y jeter vraiment un œil sérieux, surtout au milieu scolaire, parce que c'est le milieu où dans lequel évoluent les enfants. Vous voyez, quand on vous dit que vous avez une école de 1000 enfants avec une seule latrine, donc nous avons des autorités juste à côté. Je ne pense pas qu'une école puisse s'ouvrir sans qu'une autorité le sache, parce que les écoles sont constituées en provèdes, en sous-provèdes. Donc sûrement, il y a des inspecteurs qui savent que les écoles ont ouvert. Est-ce que nos collègues du niveau éducationnel font leur travail? Donc c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas? Est-ce qu'ils le font assez? Est-ce que le suivi se fait? Donc c'est tous ces genres de questions qu'on doit se poser. Mais on se dit que nous, par exemple, au programme de station de santé scolaire, nous avons notre part. Pour notre part, on fait le minimum ou le maximum possible pour que cela puisse être pérennisé au cours des années qui viennent avec le moyen que nous avons, en espérant que nous aurons plus de moyens.
Vous n'avez pas assez de moyens aussi.
Espérons que nous aurons assez de moyens et que nous pourrons peut-être être appuyés par certains partenaires pour que nous puissions vraiment rendre notre tâche assez facile dans le milieu scolaire.
Et comment vous évoluez? Vous travaillez avec les inspections? Comment vous les sous-provettes? Comment vous fonctionnez concrètement?
En fait, on fonctionne pratiquement parce qu'on est au niveau central. C'est un programme du niveau central, donc on fonctionne pratiquement comme les écoles fonctionnent, parce que on ne peut pas avoir une intervention dans une institution scolaire sans pour autant avoir l'aval des institutions qui sont chargées de la direction de l'école. Mmh. Donc on travaille avec les provèdes, les sous-provèdes, et voilà, c'est de cette manière qu'on essaie d'un peu d'évoluer ensemble. Mais il faut se dire que nos programmes ne sont pas deux fois les mêmes. Parce que là, c'est l'enseignement, nous, c'est la santé. C'est comme là, c'est difficile de faire une intervention sanitaire pendant que les enfants préparent les examens et autres. Mais bon, le peu de temps que nous avons, nous essayons de faire le meilleur en tout cas.
Mais est-ce que vous initiez aussi l'éducation? Parce que quelqu'un a parlé de l'éducation en environnement au niveau des écoles.
Oui, effectivement. Parce
que, est-ce que vous avez un volet
En fait, on est structuré en plusieurs commissions. Il y a une commission nutrition, commission épidémiologique et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de commissions. Donc, pendant même l'avènement de Mpox, nous avons eu à faire des sensibilisations au milieu scolaire pour les mesures barrières à prendre. Ça a commencé avec Covid, le choléra et tout. C'est ce que je dis, nous faisons le minimum possible. C'est que, étant donné que nous sommes plus dans la prévention, nous passons les messages, nous essayons d'échanger avec les chefs d'établissement, les enseignants, essayer d'un peu d'enseigner les mesures d'hygiène. Mais le reste, voir est-ce que ces mesures d'hygiène sont vraiment d'application. C'est un peu ça la chose la plus difficile à évaluer.
Bien, nous parlons de l'assainissement au niveau des écoles. 085 421 1147 pour intervenir en direct. Jean-Paul Chité, vous êtes à l'Omami. Est-ce qu'il est encore en ligne? Jean-Paul, vous êtes là? Désolé, Jean-Paul n'est plus en ligne. Il va certainement nous rappeler. Alors, je reviens à cette grande question. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les éléments à réunir pour avoir, pour offrir aux enfants un environnement scolaire assaini?
Effectivement, moi je pense qu'il y a déjà des éléments qui sont en amont. Je crois que Maître Omar l'a dit. Donc, des lois. D'abord, des lois pour sérieusement réprimer peut-être les écoles qui ne sont pas dans les contextes des écoles qui doivent réellement fonctionner. Et le deuxième volet, je pense que c'est responsabiliser les parents, les enseignants et les élèves sur une hygiène environnementale et un assainissement correct. Parce qu'on peut tant beau dire, mettons que l'individu lui-même n'a pas compris ce que l'assainissement, on ira de communiquer, peut-être atelier en atelier sans pour autant faire grand-chose. Moi, à mon avis, c'est que c'est l'individu lui-même au sein de la communauté qui est le meilleur acteur pour avoir un milieu assaini.
Bien, on va accueillir un auditeur. Est-ce qu'il est encore en ligne? Non, pas du tout. Nous poursuivons cet entretien sur des éléments qu'il faut mettre en place pour garantir une école, un environnement scolaire assaini. Alors, mais est-ce que je pense que c'est vous êtes beaucoup plus dans la prévention, dans la sensibilisation, mais les sanctions également. Cet aspect, qui s'en occupe? Parce que tant qu'il n'y aura pas des sanctions, il n'y aura pas des répressions, alors les gens ne vont pas s'aligner.
Bon, effectivement, donc déjà, que la plus grande difficulté, comme vous le dites là, je crois qu'au début, vous vous êtes posé des questions s'il y a des dispensaires en milieu scolaire.
Oui.
Nous avons une difficulté même d'être réellement installés dans les écoles. Parce que peu d'écoles ont des postes de santé. Je pense que si on arrivait à avoir 100% d'écoles avec des postes de santé, notre action sera sûrement visible. Parce que par là, nous aurons peut-être certaines recommandations à faire directement à notre partenaire qui est le ministère de l'EPSP, pour essayer peut-être de corriger les choses pendant que on est en train de les constater. Parce que là, malheureusement, on ne comptera pas, excusez-moi peut-être de citer l'école, on ne comptera pas seulement Boboto. Parce que facilement, on sait voir un poste de santé à Boboto. Boboto, bon, on sait
que... Il semble que dans les écoles conventionnées, quand même, c'est les choses marchent bien.
Oui, écoles conventionnées, les choses, ça va quand même. Mais ça va quand même parce qu'il y a ces postes de santé, il y a des collègues qui y sont. Et qui y sont même de manière permanente. Et le peu est quand même fait. Mais le comme c'est où, il n'y a pas de poste de santé. Donc, on pense qu'à la longue, il faudrait vraiment que... cette chose soit garantie au programme, que nous ayons des postes de santé. Cela nous permettra vraiment d'être un acteur permanent dans ce qui est assainissement au milieu scolaire.
Bien, nous avons la question d'Anaclé Ilando depuis la ville de Kananga. Il nous dit ceci: l'amélioration de l'hygiène scolaire nécessite une collaboration entre les élèves, enseignants, experts en santé publique, parents et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, afin de créer un environnement propice à l'apprentissage et à la santé. Mes questions sont les suivantes. Pourquoi l'hygiène scolaire est-elle importante pour la santé et la réussite des élèves? Quels sont les principaux obstacles à l'application des règles d'hygiène dans les écoles? Comment les enseignants peuvent-ils encourager les élèves à adopter des bonnes pratiques d'hygiène? Comment les experts en santé publique peuvent-ils accompagner les établissements scolaires? Comment le ministère de l'enseignement peut-il renforcer la politique d'hygiène, etc.? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
En quelques mots, ce que je dis, c'est que en collaboration avec le ministère, en collaboration avec les PST, pour les quelques écoles, nous avons eu quand même à faire des campagnes de prévention, nous avons fait des dépistages. Donc dans les campagnes de prévention, nous enseignons quand même, en fait nous n'enseignons pas, mais nous essayons de briefer les enseignants sur quelques mesures d'hygiène à avoir en milieu scolaire. Mmh. Et chose que eux ils font en retour au niveau de leurs écoles. Et pour dans certains cas, c'est lors des comités des parents, nous essayons aussi d'avoir certaines séances pour essayer d'impliquer les parents dans tout ce qui est hygiène au quotidien, hygiène, en santé scolaire.
Donc les parents, au travers de leur comité, doivent veiller à cela.
Exactement. Mmh. Parce que le parent, c'est vraiment un acteur capital via le comité de parents dans l'école.
Bien, Monsieur Hardy Bibombé, membre du programme national des santé scolaire et universitaire, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Et toute l'équipe était là pour vous servir. Sylvain Baouguéré a assuré la mise en onde de cette émission. Benjamin Moudoumbi a assuré la coordination et la réalisation. Esther Mamboté et Plamedi se sont occupés des plateformes digitales de Radio Capi. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ligne sur nos différentes plateformes digitales. Au micro, jeudi Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et excellentes conditions d'écoute des programmes sur Radio Capi.